Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Jésus-Christ et son Église. Voilà le titre de la série que nous continuons aujourd'hui.
La Bible insiste sur la valeur et l'importance de l'Église. Pour cela, elle emploie plusieurs images pour nous aider à mieux comprendre sa place dans nos vies. Nous allons discuter de ces illustrations en compagnie de notre invité Alain. Alain, bienvenue sur le plateau d'Espérance aujourd'hui.
Merci Yann pour votre accueil et bonjour à tous.
L'Église et le corps de Christ, voici le sujet de notre discussion. Qu'avons-nous appris à ce propos la dernière fois?
Tout d'abord, il s'agit d'un mystère. Tout chrétien authentique et sincère est uni à Christ par l'Esprit, mais il est également uni aussi aux autres chrétiens par ce même Esprit. Puis nous avons appris que cette image du corps de Christ exprime à la fois l'unité de l'Église et sa diversité. De ce fait, en tant que croyants, nous avons la responsabilité de refléter et de vivre cette unité. Nous devons mettre de côté les divisions que nous avons tendance à amener du monde, afin d'accepter, de respecter et d'aimer toute personne, quel que soit son arrière-plan socio-économique, tribal ou racial.
Merci Alain. Cet enseignement s'appuie sur les écrits de l'apôtre Paul, trouvés dans le chapitre 12 de sa lettre à l'église de Corinthe, une église précisément déchirée par les divisions et les tensions.
Oui, et nous allons poursuivre notre étude de ce texte aujourd'hui. Janine reprend sa lecture à partir du verset 14.
Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », n'en ferait-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire « Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « Je peux très bien me passer de vous ». Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Or, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ, et chacun de vous, en particulier, en est un membre.
Les propos de Paul paraissent par moments assez ridicules ou absurdes. Nous savons bien que le corps humain est composé de quatre membres et d'un certain nombre d'organes, et non pas d'un œil seulement ou uniquement d'une jambe. Il y a sans doute des leçons spirituelles à tirer de ce que Paul explique, mais lesquelles?
Il s'agit encore de cette leçon sur l'unité du corps dans la diversité. En bref, nous pouvons affirmer des membres d'une église que nous avons besoin de tous, et nous pouvons même déclarer que les autres ont besoin de nous. Le chrétien autonome et indépendant qui refuse de participer à une vie d'église ne vit pas du tout les réalités décrites par l'apôtre. Sa situation ne correspond pas au plan de Dieu pour lui. Le chrétien qui pourrait se joindre à la vie de l'Église mais qui choisit de ne pas le faire prend une décision aussi absurde qu'une jambe qui s'arrache du corps pour aller se promener seule. Nous sommes le corps de Christ que Dieu a créé et tout croyant en fait partie. Nous ne pouvons pas et ne devons pas essayer de refuser cette vérité. Ce serait nier et bafouer les bons desseins de Dieu pour nous.
D'accord, mais en quoi avons-nous besoin des autres? Et en quoi les autres ont-ils besoin de nous?
Revenons sur la notion de diversité. Nous avons tous des aptitudes et des dons différents. Nous avons également tous des faiblesses et des besoins différents. En bref, nous avons besoin les uns des autres pour mieux nous compléter. C'est ensemble que nous ferons des progrès spirituels plus marquants. Si l'on s'éloignait de l'Église pour essayer de se débrouiller seul, tous nous régresserions. La croissance spirituelle se vit au sein de la communauté.
Merci. Mais que diriez-vous à un chrétien qui affirme « Moi, je vis avec Dieu, je n'ai donc pas besoin des autres. Dieu me suffit. Je n'ai pas besoin d'aller à l'Église. »
Pour répondre à votre question, il est intéressant de noter qu'en Genèse chapitre 2, Dieu annonce pour la première fois que quelque chose n'est pas bon dans le monde qu'il a créé. Vous souvenez-vous de quoi il s'agit?
Oui, Dieu déclare « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi il créa la femme. »
C'est exact, Yann. Adam vivait en communion parfaite avec Dieu. Et pourtant, selon Dieu lui-même, il lui manquait quelque chose. Aussi étonnant que cela puisse paraître, sa relation avec Dieu ne suffisait pas. Non, Dieu a créé l'homme pour vivre en communauté avec ses semblables. L'homme est un être relationnel, il a besoin des autres, notre cœur est ainsi fait. Ensuite, j'irai jusqu'à dire aux croyants qui s'écartent de l'Église que leur comportement reflète un certain égoïsme, car isolés, ils ne peuvent pas exprimer de l'amour envers leurs frères et sœurs. Ces croyants privent l'Église de leur présence, de leur participation, de leurs dons et de leur bonté. L'Église en est ainsi appauvrie.
Et le croyant isolé s'appauvrit aussi, me semble-t-il.
Oui, comme un morceau de charbon retiré du feu risque de rapidement se refroidir. Le croyant qui ne va plus à l'Église se prive du bien que les autres pourraient lui faire. Dieu a choisi d'agir dans la vie du croyant à travers les autres chrétiens, que ce soit dans le domaine de l'enseignement, de l'encouragement, de la relation d'aide ou bien sur le plan du service, de l'aide et des actes d'amour. Nos réflexions me conduisent à ajouter un troisième point aux deux données en début d'émission. Nous avons parlé de l'unité du corps et de sa diversité, mais il faut aussi ajouter celui de la solidarité trouvée dans ce même corps. Puisque nous sommes unis en tant que corps de Christ, nous devons exprimer notre solidarité les uns envers les autres.
Oui, Paul évoque cela vers la fin du texte lu. Il nous rappelle que si un membre, comme par exemple un bras, est blessé et souffrant, le corps entier en souffre, rendant la personne malade ou mal à l'aise. De même, une bonne nouvelle qui réjouit fait bien au corps entier.
C'est exact, Yann, et au sein de l'Église, il y aura toujours des personnes affaiblies, en souffrance à cause des preuves qu'elles traversent. Il y en aura d'autres que la société rejette ou méprise, d'autres qui subissent la honte ou le déshonneur. Nous formons un seul corps avec ces personnes, alors il est juste et bon d'exprimer notre compassion envers elles de façon appropriée à leur situation vécue. Ces personnes peuvent se sentir abandonnées par la société, mais elles devraient trouver un bon accueil au sein de l'Église et bénéficier de paroles et d'actes qui expriment la solidarité du corps de Christ et qui reflètent son amour.
Merci Alain. Notre discussion touche à sa fin pour aujourd'hui, mais nous continuerons sur ce thème de l'Église en tant que corps de Christ la prochaine fois.
Merci Yann. En attendant de vous retrouver, je voudrais encourager nos chers amis auditeurs à réfléchir sur les trois mots-clés évoqués aujourd'hui et à se demander « Comment puis-je favoriser l'unité dans l'Église ? Comment puis-je contribuer à la diversité de l'Église ? Et comment puis-je exprimer ma solidarité au sein de l'Église ?» Vos frères et sœurs en Christ ont besoin de vous et vous avez besoin d'eux. Alors je vous dis au revoir et à bientôt.
À présent, nous allons écouter une courte méditation biblique. Nous reprenons notre série sur la première épître de Jean. Claude nous fera part de ses réflexions. Mais d'abord, Sandra va nous lire 1 Jean, chapitre 3, versets 4 à 9.
Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu. Car le péché, par définition, c'est la violation de cette loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a pas de péché en lui. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pèche pas. Et celui qui pèche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme le Christ lui-même est juste. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pèche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu.
Bonjour à tous. Nous arrivons à un texte difficile. Il est difficile parce que, par cet enseignement, l'apôtre Jean peut troubler ceux qui ont une conscience sensible. Il est difficile aussi parce que certains énoncés semblent en contradiction avec ce que Jean a déjà écrit dans sa lettre. Une chose est claire, Jean rappelle la nature du péché ainsi que sa gravité. Jean rappelle que le croyant ne devrait pas donner de place dans son cœur au péché. Et Jean semble aller jusqu'à dire que celui qui commet un péché ne connaît pas Dieu et qu'il est encore sous la domination du diable. Ces paroles sont dures et troublantes, surtout parce que le croyant sait qu'il est encore pécheur, qu'il lui arrive trop souvent d'avoir une conduite, des paroles, des pensées et des sentiments mauvais. Doit-il en conclure qu'il n'est pas un chrétien authentique ? Cette question trouble beaucoup et nous allons y répondre lors de nos prochaines émissions. D'une part, en cherchant à comprendre la lettre de Jean dans son contexte, et ensuite, en nous penchant sur la signification de la phrase « s'adonner au péché ». N'oubliez pas toutefois que Jean a déjà déclaré au premier chapitre, versets 8 et 10, « Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. » Il annonce aussi que Jésus est disposé à pardonner le croyant qui reconnaît et confesse ses péchés. Ainsi, dans le texte lu aujourd'hui, Jean doit évoquer autre chose que la perfection morale et spirituelle. Qui sont donc ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu et qui appartiennent encore au diable? Pour en savoir plus, il faudra nous rejoindre la prochaine fois. En attendant, je vous dis au revoir.
Oui, nous avons hâte de découvrir les réponses à ces questions importantes et troublantes. Merci Claude. À bientôt et au revoir à tous.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.